Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Les algorithmes sont maintenant partout sur Internet. Ils sont là pour façonner notre expérience utilisateur, mais ils posent aussi sérieusement questions. C'est ce que nous expliquera notre premier invité. Ensuite, avec un second invité, on parlera des fameuses conditions générales d'utilisation, les CGU, qu'on ne prend pas toujours la peine de lire sur Internet à tort. En fin d'émission, vous écouterez en avant-première un extrait d'un podcast que va lancer RFI. Il s'intitule Afrofuturisme et celui qu'il présente sera avec nous. Mon blog audio sera aussi dans cette veine résolument afrofuturiste. Mais tout de suite, on va plonger dans les algorithmes. Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? Pas grave, vous devriez vite comprendre grâce à cette interview enregistrée en mars à Lille lors du Grand Barouf numérique.
RFI.
Bonjour, je suis Frédéric Bardol. Je suis cofondateur de deux associations. La première s'appelle Data for Good. On a pour but d'aider les associations à faire des projets de data science. Et la deuxième s'appelle Algo Transparency. Et là, on va essayer d'explorer plutôt comment fonctionnent les algorithmes et d'ouvrir leur code et de montrer aux citoyens comment ça marche à l'intérieur.
On parle beaucoup d'algorithmes, mais en fait, qu'est-ce que c'est un algorithme ?
Un algorithme, finalement, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont en entrée, comme des ingrédients, et on va les cuisiner pour en faire autre chose. Donc, on va prendre, par exemple, des chiffres pour calculer, pour faire des opérations mathématiques, on va utiliser par exemple des algorithmes. Ça existait avant les ordinateurs. En prenant ces chiffres en entrée et en les passant à travers notre recette de cuisine, on va avoir un résultat en sortie. Voilà, un algorithme, c'est une recette de cuisine.
Et donc avec Algo Transparency, vous travaillez sur des algorithmes comme celui de YouTube par exemple, qui pour le coup n'est pas transparent. Pourquoi c'est important de comprendre le fonctionnement des algorithmes de ces grosses plateformes ?
En fait, ça a commencé parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des choses un petit peu étranges qui apparaissaient. Notamment, c'est Guillaume Chasselot qui s'en est aperçu, c'est un ancien ingénieur chez YouTube. Et il se rendait compte que les résultats qui étaient recommandés par l'algorithme, notamment de YouTube, correspondaient pas forcément aux recherches qu'on avait faites. Donc on recherche un thème, et puis l'algorithme finit par nous présenter des vidéos qui traitent d'un autre thème, qui est un petit peu éloigné. Et souvent, ce qui se passe, et ce qu'on a réussi à mesurer, c'est que ces thèmes sont souvent les mêmes. L'algorithme va nous orienter, mais souvent vers les mêmes choses. Comme s'il y avait une espèce de trou noir des recommandations qui font qu'on est tout le temps attiré vers ces vidéos-là.
Donc c'est quel type de vidéo, par exemple ?
Alors ça a commencé à l'époque de l'élection américaine et Guillaume s'est rendu compte qu'en fait, quel que soit le terme de recherche qu'on faisait entre Trump et Clinton, on avait plus de vidéos de recommandées pour Trump, ce qui était étonnant, parce qu'on peut s'y attendre pour Trump, mais quand on cherchait Clinton, c'était étonnant d'avoir aussi plus de recommandations sur Trump. Et on l'a fait pareil pour l'élection présidentielle française, et on s'est aperçu un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que les vidéos les plus recommandées, c'était Le Pen, Mélenchon et Asselineau. Et donc pas forcément parce qu'ils avaient plus de vidéos, mais parce que l'algorithme jugeait que c'était plus pertinent de les montrer.
Et donc, est-ce que vous avez réussi à comprendre le fonctionnement de l'algorithme de YouTube ou est-ce que ça reste encore très opaque ?
En fait, il y a pas mal de données sur le fonctionnement de l'algorithme qui sont publiques. Notamment, il y a des papiers de recherche qui sont publiés par Google sur le fonctionnement de leur algorithme. Alors, on ne sait pas tout, mais on sait quand même un grand nombre de choses. Et notamment, le problème originel, entre guillemets, c'est qu'il essaye à tout prix d'optimiser le watch time, donc le temps passé sur la plateforme. C'est son objectif à l'algorithme. Chaque objectif, comme ça, d'apprentissage automatique, a un objectif qu'il essaye d'optimiser et de remplir. Et lui, son objectif, c'est combien de temps on passe sur la plateforme. Ce qui est normal, vu que le but, c'est de nous afficher des publicités, il a intérêt à ce qu'on passe le plus de temps possible sur la plateforme. Le problème avant ça, c'est que les vidéos qui font que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme, enfin font des longues sessions, on va dire, ça peut être parfois des vidéos complotistes, des vidéos anti-vaccins, des vidéos comme quoi la Terre est plate. C'est des vidéos qui font rester les gens très longtemps, parce que les gens se disent « Ah, j'ai trouvé quelque chose, j'ai résolu un mystère. » Les humains aiment bien résoudre des mystères. Et donc pour l'algorithme, il se dit « J'ai trouvé une très bonne vidéo. » Lui, finalement, le contenu, il ne le connaît pas spécialement.
Et vous parlez aussi, je trouve ça très intéressant, d'algorithmes éditeurs. En quoi les algorithmes sont aussi des éditeurs ?
Alors, la question de l'éditorialisation par les algorithmes, elle vient du fait que quand on a un média traditionnel, il y a un éditeur qui va proposer une ligne éditoriale, qui va dire ce contenu on l'accepte ou pas. Et finalement, les algorithmes de recommandation de ces grandes plateformes ont un petit peu ce rôle-là. C'est pas un simple annuaire, ils vont proposer des vidéos, ils vont recommander des vidéos, ils vont même jouer automatiquement des vidéos qu'on n'avait pas demandé à voir. Et dans ce sens-là, à nos yeux, ils ont un rôle éditorial important.
Et donc pour le moment, ce rôle n'est pas reconnu. Comment on pourrait faire, quelle solution pour envisager pour contrer les effets néfastes des algorithmes, donc par exemple la recommandation de vidéos complotistes, etc.
Alors, on n'a pas de recette miracle malheureusement, mais ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes ces plateformes qui recommandent massivement du contenu, c'est le massivement je pense qui est important, elles ont simple statut d'hébergeur, c'est-à-dire que c'est comme si on hébergeait du contenu en ligne et puis il est à la disposition de tout le monde. Mais on considère que voilà, comme il y a cette recommandation massive, il devrait avoir un rôle peut-être un peu tierce. Et donc il y a des voix qui se prononcent pour dire il faudra peut-être un statut intermédiaire entre le statut d'hébergeur et le statut de média. Une des choses qui pourrait être faite par exemple, ce serait se dire, une fois qu'un contenu a été recommandé un certain nombre de fois, peut-être 100 000 fois, peut-être 1 million de fois, et ben là il y a une responsabilité de la part de la plateforme qui gère l'algorithme, qui l'a recommandé.
Et ça, vous pensez que c'est prêt d'arriver ou pas, ce changement de statut?
Je sais qu'il y a des débats parlementaires qui portent sur ce sujet. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas s'il va être accepté ou pas. Et après, il faut aussi comment dire, faire attention, parce que ça peut aussi poser d'autres problèmes de censure par les plateformes. Donc voilà, placer le curseur est assez délicat. Et donc je ne pense pas qu'il y ait malheureusement de recette miracle pour améliorer les choses.
Il n'y a pas de recette miracle, vient de nous dire Frédéric Bardol, cofondateur d'Algo Transparency. Les plateformes, petites ou grandes, comme les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, doivent prendre leurs responsabilités. Et le RGPD, Règlement européen sur la protection des données, est déjà un premier pas dans ce sens. Les entreprises doivent faire preuve de transparence et permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de tout ou partie de leurs données. Cela passe notamment par ce débat du jargon juridique qui compose les conditions générales d'utilisation, les fameuses CGU. C'est un des combats que mène notre prochain intervenant.
Bonjour, Thomas Saint-Aubin, je représente aujourd'hui la PrivacyTech, qui est une association qui fédère les startups qui essaient de protéger la vie privée sur Internet, la mise en œuvre concrète du RGPD, un écosystème d'une soixantaine de startups aujourd'hui en France. Et on est sur le stand Vive pour débattre des CGU, conditions générales d'utilisation, en langage clair et compréhensible par les humains, mais aussi par les machines.
Alors déjà, le RGPD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez un peu nous expliquer?
Oui, les Européens ont essayé de donner une réponse concrète aux GAFA pour ne plus subir le cadre juridique imposé par les GAFA sur nos données et avoir un grand texte applicable dans toute l'Europe. Il est applicable dans toute l'Europe depuis le 25 mai. Et c'est sans doute une grande progression pour la protection de la vie privée des internautes.
Donc concrètement, pour les internautes, qu'est-ce que ça doit changer, le RGPD ?
Il y a un certain nombre de nouveaux droits. Par exemple, il y a un droit à la portabilité des données qui va permettre, dès quelqu'un a une donnée sur vous, vous allez pouvoir en récupérer une copie dans un format structuré et la partager à d'autres. Donc vraiment de reprendre le contrôle de nos données. Parce qu'aujourd'hui, quand on télécharge des applications, par exemple, on accepte toujours des CGU que personne ne lit, ça on le sait bien. Et on se retrouve soumis à un droit, souvent américain, souvent d'ailleurs de droit californien. Et on contrôle pas grand-chose juridiquement et techniquement.
Donc les conditions générales d'utilisation, en fait, qu'est-ce que c'est ? Enfin, vous l'avez dit, c'est ces choses que personne ne lit. Mais quels sont les enjeux derrière, en fait, d'accepter comme ça des conditions qu'on n'a pas lues ?
Si vous placez du point de vue d'un éditeur, d'un fournisseur, il faut envisager les clauses données, faut récupérer des droits sur les données que vous allez collecter. Donc c'est les CGU où vous allez renseigner ça. Et puis côté utilisateur, comme vous les lisez pas, c'est difficile de se protéger parce que le contrat lui-même, il s'applique entre les parties. Et puis le fournisseur, il pourra faire tout ce qu'il a prévu dans le contrat. Il pourra réutiliser vos données pour ces finalités-là.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait les lire à chaque fois, ces 50 pages de conditions générales ?
Non, justement, ouais, on a vu qu'il nous faudrait, il faudrait passer notre vie, y consacrer toutes nos vies pour lire toutes les CGU auxquelles qu'on a acceptées. Donc nous, on travaille de manière collaborative, de manière ouverte, depuis maintenant 3 ans, pour créer des CGU compréhensibles par les humains. Donc là, en fait, on essaie d'utiliser le legal design. On a créé à la PrivacyTech des privacy icons qui synthétisent en un coup d'œil ce que va faire le fournisseur de vos données, la durée de conservation, pour quelle finalité, quelles sont les mesures de protection technique et tout ça. Et puis aussi une version compréhensible par les machines pour que, quand c'est moi qui vais reprendre le contrôle, qui vais définir moi-même mes conditions générales de réutilisation, passer des CGU aux CGR, conditions générales de réutilisation, que les machines puissent comprendre ce que moi j'ai consenti ou pas consenti. Et voilà, aujourd'hui c'est oui ou non, et nous on explore à la fois, en termes de legal design, comment en un coup d'œil je peux comprendre les CGU, et puis d'un point de vue plus technique, comment entre le oui ou non, je peux dire oui mais, et poser mes conditions. Et là ça suppose de rentrer dans le code.
Oui, parce que là, le problème, quand même, c'est que même si on n'est pas d'accord avec, admettons, les conditions de Facebook, si j'ai besoin d'utiliser Facebook, comment je fais ?
Alors, de plus en plus, les grands opérateurs permettent de paramétrer un petit peu hein, sa vie privée. Une des applications du RGPD, par exemple, c'est que par défaut, c'est ce qu'on appelle le privacy by default, c'est que par défaut, en fait, on va restreindre les conditions de partage, d'accord ? Mais on peut aller beaucoup plus loin et on peut imaginer que demain, au travers de votre identité numérique, c'est vous qui allez définir bah, votre vie privée. Donc nous, on appelle ça le « design your privacy ». Et vous allez dire, bah voilà, moi, mes données qui sont sur LinkedIn, Facebook, Google, je suis prêt à les mettre à disposition pour tel sujet, pour, je sais pas, l'éducation, la science, etc. Pendant combien de temps ? Vraiment, on a un gros enjeu de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on l'a pas. Il y a 10 ans, on nous parlait de big data, que ça allait changer l'homme. Aujourd'hui, on n'a que de la publicité ciblée. Et nous, on trouve que c'est un peu dommage que toute l'innovation soit pas au service du citoyen, mais soit au service des grands groupes.
Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, si on reprend le contrôle de nos données, de les vendre nous-mêmes plutôt que ça soit Google qui se serve de ces données-là ?
Oui, alors il y en a certains qui veulent monétiser les données personnelles. Pourquoi pas ? Moi, à titre personnel, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, ça m'intéresse plutôt, par exemple, dans le monde de la santé. Aujourd'hui, je vais collecter énormément de données avec le Quantified Self, avec mes applications sportives, avec les mutuelles aussi qui travaillent là-dessus. Là, on est sur le stand de Vive, c'est le mutuel Vive avec MGEN et Harmonie qui ont beaucoup travaillé pour redonner aussi ce contrôle sur les données de santé. Et on peut aider, comme ça, si je reprends le contrôle, de partager mes données, par exemple, à mon médecin, à certaines applications, pour effectivement les remettre à mon profit. Hein, et pas forcément les vendre, mais avoir un meilleur service. Hein. Moi, j'appelle ça les services numériques à la personne, des services plus personnalisés, parce qu'ils partent de mes données à moi. Mais on a un gros enjeu, c'est comment en fait on gère le lien entre récupérer mes données qui sont un peu partout et les partager à des gens qui vont me rendre des services pour moi. Voilà, ça c'est un grand enjeu.
Concrètement, comment on pourrait faire ?
Alors on a un objectif aussi plus politique hein, au niveau européen, c'est que les Européens ont apporté cette réponse juridique qui a mis beaucoup de temps, qui est arrivée en mai dernier, et on se rend compte que ça suffit pas parce que le texte, bah il est pas forcément respecté. C'est d'ailleurs c'est très très lourd pour nos entreprises, nos administrations de se mettre en conformité avec ce texte. Et du coup nous au sein de la Privacy Tech, on est en train de fédérer des acteurs en Europe, des grands groupes, des startups, pour créer des standards justement, pour dire comment on va structurer les données personnelles. Et comment on va, quels standards on va définir pour les partager entre nous. Et puis, on se donne un an pour aller déposer un projet à l'Europe, pour réunir tous les acteurs vertueux, ceux qui veulent aller plus loin, pas seulement protéger, mais aussi innover avec nos données, et construire un modèle vertueux de numérique au niveau européen, qui sera fondé d'abord sur le consentement des Européens. Voilà. Donc c'est un grand projet, ça va mettre du temps, et l'Europe nous soutient, et on se donne un an pour fédérer toutes les associations, les grands groupes, les startups, qui veulent participer à ce consortium pour créer ces standards, et se dire que le droit seul, il doit avoir un prolongement technique, il doit avoir un prolongement dans le code, et voilà, ça c'est un peu les biens communs de la Privacy Tech qu'on essaie de développer collectivement.
Maintenant, enfin avant que, en tout cas, il y ait des avancées, que ça soit voté, en tant que citoyen, comment on peut faire déjà pour mieux protéger ses données et sa vie privée ?
Effectivement, bon, il y a un certain nombre de solutions qu'on peut tracer aujourd'hui, installer sur son navigateur, que ce soit Firefox, Chrome, Safari ou IE, on peut installer un certain nombre d'outils, de tools Privacy Tech pour voir un petit peu les mouchards, on peut voir un petit peu tout ce qui est pris sur mes données, d'avoir des synthèses, voilà. Donc ça, c'est assez concret, on peut déjà surveiller un peu qui fait quoi. Il y a un certain nombre d'applications qui permettent de voir sur son smartphone, ça a évolué, ça. Tous ceux qui collectent de la donnée, par exemple, en temps réel, sur la géolocalisation. Donc je peux couper, je peux dire, j'accepte qu'on collecte ma géolocalisation uniquement quand j'ai utilisé le service. Par exemple, ce matin, je suis arrivé à Lille. Bêtement, j'étais perdu pour aller à la CCI. Bon, je me suis géolocalisé, mais Google a capté ma géolocalisation pendant que je cherchais ma route. Et là, elle apprend plus. Donc voilà, ça, c'est des choses très concrètes. Après, à plus long terme, il faudra vraiment, je pense, lier à une identité numérique un certain nombre de droits. Donc d'avoir chacun un peu sa politique. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis prêt à partager un certain nombre de données pour l'éducation. Mais pas forcément pour des grands comptes ou des GAFA. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces outils-là. Et c'est pour ça qu'on veut créer quelque chose de très simple. Où les gens vont remplir un petit questionnaire sur quelques questions et vont pouvoir dire voilà ma politique, et en fait on va renverser le système. Ça sera aux éditeurs de dire bah lui Thomas Saint-Aubin, vous voilà, si vous voulez récupérer ces données, voilà ses conditions, c'est lui qui les impose, et puis moi qui accepte qui est 140 200 CGU que j'ai jamais lu et donc j'ai aucun contrôle.
C'était Thomas de Saint-Aubin au micro de Camille Sarrazin.
sans rêve, pas d'avenir. Et l'afrofuturisme, c'est notre capacité à réinventer notre futur. Que notre futur ne soit plus jamais uniquement celui imaginé par les autres. Celui qui n'est pas en capacité de se projeter dans le futur ne s'y trouvera pas.
Afrofuturisme.
Cette manière que l'Afrique d'aujourd'hui a de se projeter dans un avenir, dans son avenir, une manière de dire que l'avenir, c'est ce qu'elle va faire. Et évidemment, il faut laisser galoper l'imagination. C'est le principe non seulement du futurisme, c'est également le principe de la prospective. D'ailleurs, une bonne prospective, c'est pas simplement prolonger mathématiquement des tendances aujourd'hui, c'est également, à un moment donné, dire « rêvons un peu ».
Ce que vous venez d'entendre, c'est un avant-goût d'afrofuturisme, en un seul mot et avec un S à la fin. Un podcast natif, comme on dit, produit par RFI, qui va être diffusé dans le monde entier à compter du lundi 3 juin 2019. Pour en parler, j'accueille Vladimir Cagnolari. Bonjour Vlad.
Bonjour Steven.
Alors on va se tutoyer parce qu'on s'est beaucoup vu ces derniers temps, puisque tu travaillais sur ce podcast Afrofuturisme. Peux-tu nous expliquer comment est-ce que tout cela a commencé ?
La vérité, c'est une idée de Sinatou Saka, qui est une ancienne mondo-blogueuse et qui travaille maintenant à RFI, et qui a suggéré ça serait pas mal quand même de faire quelque chose autour de l'afrofuturisme. C'était très en vogue. Il y avait eu le film Black Panther quelques temps auparavant qui avait remis ce mot, j'ai envie de dire presque à la mode, sauf que tout le monde en parlait comme ça, peut-être même moi compris, sans trop savoir de quoi on parlait.
Alors tu as découvert ce que c'était maintenant ?
En réalité, les auditeurs comme moi, enfin les auditeurs seront un peu mes cobayes, puisque comme moi, ils vont apprendre à mesure qu'on avance dans les 5 épisodes de cette série, parce que c'est vrai que j'ai commencé, j'ai envie de dire, presque tout nu, je connaissais très peu de choses là-dessus, puis je me suis rendu compte quand même que c'était un courant d'idées, souvent exprimé par des artistes, et qu'il y avait vraiment toute une histoire, une longue histoire, qui est une histoire qui s'inscrit dans tous ces fils, parfois invisibles, qui se sont tissés dans l'Atlantique noir, entre l'Afrique et ses diasporas.
Alors, tu t'es intéressé à ce sujet-là. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un podcast ?
Alors ça, oui, aussi. En tout cas, un podcast, comme on dit, natif. Alors, j'ai appris de coup ce que ça voulait dire par la même occasion. Ça veut dire, c'est quelque chose qui n'est destiné que au web. C'est pas, on prend une émission, on dit c'est podcast. Non ! Voilà, c'était un podcast spécialement pour le web. Et donc, du coup, l'idée, c'est que les gens puissent le télécharger et l'écouter, si c'est possible, au casque, comme si je leur susurrais dans l'oreille. En tout cas, ça m'a demandé d'apprendre quelques manières de faire un peu différentes. Et j'ai pu compter sur l'ineffable Simon de Creuse, qu'on connaît bien à l'Atelier des médias, parce que lui a beaucoup plus l'habitude que moi d'écouter des productions audio sous cette forme-là, le podcast.
Donc, Simon de Creuse, c'est lui qui réalise chaque semaine l'émission L'Atelier des médias. Mmh. Et en faisant ce podcast, est-ce que tu as appris à raconter des histoires peut-être autrement ?
Écoute, j'ai envie de dire à la fois oui, à la fois non, parce que moi j'ai toujours un petit peu aimé jouer avec les formes, et donc du coup, le fait de dire je, de raconter les choses telles que moi je les ressens, ça ne me dérange pas déjà à la base. Par contre, ce qui était intéressant, je trouve, dans ce qu'on a fait avec Simon et Sinatou, qui nous a aidé aussi sur cette série, c'est que finalement les choses se sont faites en se faisant, et comme justement j'apprenais à la fois à faire du podcast, à la fois ce que c'était que l'afrofuturisme, du coup, il y a eu cette espèce de processus que les auditeurs vont eux aussi suivre. Et puis, je crois qu'on a essayé avec Simon, et ça c'est tout son talent, tu vas me devoir beaucoup d'argent après tous ces compliments que je fais. Il est de l'autre côté de la grille.
Il acquiesce de l'autre côté de la vitre.
En fait, c'est aussi une manière d'utiliser les sons tout à fait différemment, parce qu'on s'affranchit de certains codes habituels de la radio. Alors, on n'a pas inventé la poudre, c'est pas la révolution, mais ça donne une grande liberté avec laquelle on s'est quand même pas mal amusé.
Et donc, c'est un univers à la fois sonore, mais aussi visuel qui a été pensé autour de ce podcast. Pourquoi ?
Il faut dire que l'afrofuturisme, c'est donc d'abord et avant tout quelque chose qui a été développé par des artistes, donc des visions du futur et de futurs alternatifs à ceux qu'on nous propose en général. Et donc, ça passait par la musique, ça passait aussi par les arts plastiques, par les arts visuels, par la vidéo. Donc la vue, c'est important aussi. Comme on est sur le web, qui est un média qui aime se nourrir de beaucoup de sources, et ben justement, on a travaillé un petit peu là-dessus avec le studio graphique de RFI, c'est Simon qui a coordonné un petit peu tout ça, pour qu'aussi on ait une identité visuelle qui soit alternative, j'ai envie de dire, à celle qu'on a traditionnellement pour les podcasts.
Et donc Afrofuturisme, ce podcast se déroule dans le futur, en Afrique, à Abidjan, on peut en savoir un petit peu plus?
Ah ouais, il faut que je vous dise ça aussi, parce que l'air de rien, j'essaie de vous raconter un petit peu ce que j'ai découvert sur cette histoire de l'afrofuturisme, mais en vérité, aujourd'hui, je suis revenu très exceptionnellement en 2019, mais je vous parlerai de 2069, parce que j'ai été téléporté, téléchargé même par une puissante machine informatique qui m'a dématérialisé et rematérialisé à Abidjan. Donc, je vais pouvoir vous donner des nouvelles d'Abidjan et de l'Afrique dans 50 ans. C'est exclusif, croyez-moi. Et donc, je vous raconte de 2069 des choses que j'ai apprises en 2019 quand j'étais encore avec toi, avec Simon, enfin bref, quand j'étais encore votre contemporain. Je sais pas si tu m'as suivi, mais en tout cas, il faut écouter pour comprendre.
Ça me paraît un petit peu compliqué, mais est-ce qu'il y a toujours Internet et des médias en 2069?
Ah, il y a des choses qui ont vraiment évolué. Par exemple, on ne s'embête plus avec les téléphones.
Ah bon?
Bah oui, non, mais c'est pénible, le téléphone. Il faut les recharger, il faut les avoir dans la main ou avoir des casques. Non, on a inventé un procédé super, un peu inspiré, tu sais, de ce vieux truc. Enfin, allez, en 2069, on trouve que c'est un vieux truc, pardon, pour ceux qui l'ont inventé. Tu sais, le Bluetooth. Bon, on est passé au Greentooth, c'est la génération d'après, où en fait, c'est une oreillette, mais pratiquement invisible, et où on communique directement par télépathie. C'est-à-dire que, en fait, on entend directement les gens avec qui on veut être en relation. Donc, si je veux te parler, Steven, je n'ai même pas besoin de te parler. Tu m'entends?
Parfait, merci Vladimir Cagnolari. Donc je rappelle, Afrofuturisme avec un S sera dispo dès le lundi 3 juin sur le site de RFI, l'application RFI Pure Radio et sur vos applications de podcast préférées. Et enfin, sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes au fur et à mesure sur YouTube, partout dans le monde. À bientôt Vladimir.
Salut.
Et on va poursuivre sur cette veine afro-futuriste avec Mondoblog Audio qui nous emmène au Mali cette semaine avec le mondoblogueur Ousmane Traoré pour qui rêver d'Afrique est plus qu'une nécessité, c'est un devoir.
L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est un continent prometteur, un continent émergent. Ces propos résonnent différemment dans notre esprit, que l'on soit afro-optimiste ou afro-pessimiste. Car si de belles choses ont été réalisées sur le continent, il est certain que beaucoup de travail reste à faire. Malgré les multiples défis, nous avons le devoir de rêver l'Afrique. L'Afrique stand toujours sur les questions de bonne gouvernance, d'alternance politique, de respect des constitutions. L'accès à l'éducation, aux soins de santé sont toujours un luxe pour certains. La création d'emplois pour les jeunes reste un gigantesque défi. Les questions de justice et des droits, de disparités entre riches et pauvres sont des tares qui enlaidissent le continent noir. Pourtant, les problèmes de l'Afrique ne doivent pas nous pousser au découragement, c'est au contraire une raison de redoubler d'efforts pour nous, Africains. Les défis sont une excellente opportunité à saisir pour nous élever, pour apporter notre part à l'histoire de l'humanité. Nous sommes le continent qui a le plus de chances de se réinventer. Nous devons être des visionnaires, des sculpteurs d'avenir. Nous devons nous inspirer de nos diverses cultures, apprendre de notre riche histoire pour créer quelque chose de nouveau, de grand, de durable, estampillé Afrique. C'est vrai, nous avons eu un passé rude et tumultueux, mais nous ne devons regarder le passé que pour nous en inspirer, pour prévoir demain. L'Afrique doit être un exemple pour le monde, un exemple de renaissance. Si selon les classements, nous sommes un continent en retard, nous avons le devoir de faire de ce continent le premier au monde. Nous sommes riches en ressources minières, agricoles, mais aussi en culture et tradition. Nous avons le devoir de nous mettre en valeur. Je nous vois libres, unis, avec l'accès à l'éducation, aux soins de santé pour tous. Nous avons des jeunes pleins de rêves, d'entrain, de témérité. Frayons un nouveau chemin. La lutte sera âpre et longue, mais avec le partage, le dévouement, le sacrifice, nous pouvons y arriver.
Mondoblog.org.
C'était Ousmane Traoré que vous pouvez retrouver sur son blog Machiavelli et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche et Camille Sarrazin. À la réalisation, Simon De Creuse, au micro Steven Jambou. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, on parlera de l'utilisation des cartes, de la cartographie dans les médias. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.